Stop, c'est parti.
Regardez-moi la télé.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello. Il est 9h40, vous êtes sur France Inter et c'est parti pour un nouvel Instant M.
Vous coupez ?
Non, je vous
vois. Vous êtes en direct, allez-y.
Face à la mémoire des années 30, celle des années 40 a longtemps fait écran. La guerre a écrasé l'avant-guerre. Pourtant, Adolf Hitler arrive au pouvoir dès 1933 et Berlin grouille de journalistes étrangers, correspondants et envoyés des grandes puissances occidentales. Daniel Schneiderman a relu les journaux de l'époque. Pas les livres de mémoire parus des années après, non. Les articles publiés au jour le jour, censés rendre compte d'un régime antisémite et totalitaire. Stupéfaction. La presse internationale s'avère en sourdine. Pourquoi ne hurlèrent-ils pas le péril aux oreilles du monde ? Défaite flagrante du journalisme et des démocraties environnantes. Daniel Schneiderman remonte le temps de l'indifférence, de la lâcheté, de l'autocensure et de l'anticommunisme primaire. Sa vieille mère juive est là, sur son épaule. Elle n'aime pas beaucoup qu'il remue ce passé enterré.
L'Instant M. Sonia de Villers. Sur France Inter.
Bonjour Daniel Schneiderman.
Bonjour Sonia de Villers.
Berlin 1933, la presse internationale face à Hitler vient de paraître aux éditions du Seuil. C'est un gros livre, il y a même quelques pages de papier glacé glissées à l'intérieur avec les photos de ces personnages dont vous faites des héros ou des anti-héros. On va en parler dans un instant. Je rappelle que vous dirigez le site d'Infomédia Arrêt sur Image. À ce titre, profitons-en. Je voulais vous poser une petite question d'actu avant qu'on remonte ensemble le fil de l'histoire et de l'histoire du journalisme. La presse française en 2018, ces dernières semaines, mais vraiment ces dernières semaines, ça s'est passé dans un temps très concentré. On a l'habitude de se poser des questions sur la fragilité économique de la presse indépendante. Mais là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que des titres qui sont dépendants d'actionnaires très solides, qu'on pensait robustes, qu'on pensait fiables, voient leur sort brutalement remis en question. BuzzFeed apprend du jour au lendemain que les Américains ont décidé de fermer ce site d'info en France. Mondadori, premier groupe de presse magazine en France, apprend du jour au lendemain que les Italiens se débarrassent d'eux, comme les magazines du groupe Lagardère vendus, hop, comme les salariés du Monde. Je rappelle que vous êtes un ancien journaliste du Monde, qui découvre stupéfait que un de leurs deux actionnaires, Mathieu Pigas, a failli revendre toutes ses parts à un milliardaire tchèque. Qu'est-ce qui se passe là, en quelques semaines ?
Bah vous avez raison, c'est résumé comme vous le faites, c'est totalement...
C'est vertigineux.
C'est totalement vertigineux, ça n'a pas commencé. Je rappelle que, par exemple, quand l'Obs a été vendu à Isaac Yeniel, par Claude Perdriel, il a vraiment été vendu pour une bouchée de pain, mm-hmm. Et tout le monde était à l'époque déjà, c'était il y a quelques années, stupéfait en se disant qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux hypothèses, si vous voulez. La première hypothèse, l'hypothèse optimiste pour l'information, c'est que on est dans une période de recomposition générale de la distribution d'informations et que effectivement les dinosaures s'écroulent et que d'autres médias indépendants, fiables, rigoureux, professionnels surgiront à leur place parce qu'il y a structurellement un besoin d'informations fiables. Et puis, il y a une hypothèse pessimiste qu'il faut regarder en face, parce qu'il faut regarder en face même ce qui est le plus terrible, et ça va peut-être nous faire le lien avec ce dont on va parler ensuite. Il y a une hypothèse pessimiste qui est que les réseaux sociaux et les bulles de réseaux sociaux vont tout écraser, et que finalement, fondamentalement, on va vers une période peut-être longue dans laquelle les citoyens n'ont plus envie, enfin, en tout cas un grand nombre de citoyens n'ont plus envie d'une information fiable et professionnelle, au sens où la fabriquent les journalistes avec des cartes.
Donc en fait, là, ce que vous dites, c'est ce qui sous-tend cette grande reconfiguration en cours, c'est la démonétisation de la presse. Et pourtant, on voit un milliardaire tchèque dont on sait très peu de choses, Daniel Kretinsky. Je vous renvoie au papier de Jérôme Le Filiatre, qui a fait la une de Libération hier, qui veut mettre la main sur toutes les parts de Mathieu Pigas, actionnaire du Monde. Donc, ça sert à quelque chose, un journal. Donc, ça a encore de la valeur.
Bah oui, sauf que, si vous voulez, personne ne sait pourquoi. La grande inconnue dans le cas du Monde et de Kretinsky, ce milliardaire tchèque, là, c'est que personne ne sait pourquoi il rachète à l'appel des médias français.
Marianne, et puis les titres de presse du groupe Lagardère.
Et maintenant, le Monde dans lequel il est apparemment très gourmand. Donc, personne ne sait. Je veux croire que les journalistes du Monde ne vont pas lâcher le morceau. Leur première réaction a été excellente. Ça a été de faire deux pages sur Kretinsky, leur futur nouvel actionnaire, en rappelant par exemple qu'il était dans les Panama Papers. Donc ça, c'est très bien. Ils se défendent avec leurs armes, c'est-à-dire le journalisme, pourvu que ça dure.
Pourvu que ça dure. Allez, Berlin, 1933. Il y a des héros et des anti-héros dans votre livre, Daniel Schneiderman. Dorothy Thompson, j'ai un doute. Dorothy Thompson, parce que je la confonds avec la romancière que j'aime beaucoup, Dorothy Johnson. Dorothy Thompson, elle est américaine, elle a été expulsée de Berlin en 1933.
Le vrai problème qui oppose les correspondants de la presse étrangère au gouvernement allemand concerne la nature même du journalisme. Ce gouvernement n'autorise sa propre presse à ne publier que des informations officielles. Nous pensons que le journalisme doit témoigner de tout ce qui se passe, que ce soit ou non en faveur de tel ou tel régime, et de partager autant que possible tous les points de vue.
Elle s'exprime là après son expulsion de Berlin.
Vous êtes trop fort. D'avoir retrouvé ça, vous êtes trop fort.
Bah voilà, c'est Marion Philippe qui travaille depuis 3 jours. Elle a retrouvé des voix. Oui, il nous reste des voix de journalistes des années 30. Il nous reste des visages. Et Dorothy Thompson, c'est même devenue l'héroïne à l'époque de la lutte contre le fascisme, de la lutte des démocraties occidentales contre le fascisme. Elle a écrit ce livre, J'ai vu Hitler, en 1932. Elle démolit d'emblée la statue du dictateur. Elle devient l'éditorialiste la plus lue d'Amérique à la fin des années 30. Oui, il vous fallait encore des visages comme cela, Daniel Schneiderman.
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est l'exception. Dorothy Thompson, c'est une...
On va y venir, mais il faut en parler de cette femme.
Je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord. Et on a besoin d'avoir, heureusement, quelques belles figures de journalistes. Bah oui, voilà, vous l'avez dit, c'est une Américaine, elle vient, elle rencontre Hitler. Elle est une des premières journalistes occidentales à rencontrer Hitler. Elle a une interview assez longue. Et à la suite de quoi, elle fait ce qu'on appellerait aujourd'hui un quick book, que lui a demandé un éditeur alors qu'elle était à Berlin, en disant « j'ai vu Hitler », et puis elle fait une description physique accablante de Hitler. Et effectivement, après que Hitler sera arrivé au pouvoir, donc en 1934, elle essaye de revenir à Berlin, mais on lui fait très vite comprendre, Goebbels lui fait très vite comprendre qu'il faut prendre la porte, quoi.
Edgar Ansel Maurer, commençons par ceux qui ont tenté, commençons par ceux qui se sont fait sortir de Berlin. Ensuite, on va raconter ceux qui y sont restés et ce que eux ont raconté. Correspondant du Chicago Daily News depuis 10 ans, président de l'Association de la presse étrangère, il avait déjà couvert l'ascension de Mussolini à Rome. Lui, il va être le premier, hein, expulsé d'Allemagne. Pourquoi est-ce qu'il est important ?
Il est important parce que donc il est expulsé en septembre 33, c'est-à-dire environ 9 mois après la prise du pouvoir de Hitler. C'est le premier expulsé occidental d'Allemagne. Alors lui, il a fait un bouquin aussi qui est paru début 33, qui s'appelait L'Allemagne retarde, Germany put the clock back, où il raconte l'antisémitisme au quotidien, l'antisémitisme impalpable dans l'Allemagne d'avant Hitler.
La République de Weimar.
À Weimar, ça fait référence aux années 31-32. Et d'ailleurs, ça permet de se rendre compte que l'antisémitisme de rue en Allemagne n'a pas commencé le 30 janvier 33. Je veux dire, il y avait déjà un climat, il y avait déjà des agressions de rue, il y avait déjà des gamins juifs qui se faisaient agresser dans les cours de récréation en Allemagne, etc. L'hitlérisme va juste rendre cela officiel.
Et puis surtout, ce que vous dites, Daniel Schneiderman, c'est que en fait, l'expulsion de Maurer, je rappelle, correspondant du Chicago Daily News, se fait avec l'accord de l'ambassade américaine. Et c'est là qu'on commence à entrer dans le cœur de ce sujet, c'est-à-dire entre des envoyés spéciaux et des correspondants qui vont jouer des doubles rôles de journalistes et de diplomates au sacrifice du journalisme, précisément.
Et alors ça, c'est très important. Je pense que c'est la première défaite occidentale devant le nazisme. C'est quand l'ambassadeur américain à Berlin, Dodd, cède aux nazis et explique lui-même, après des semaines et des semaines et des semaines de pression, explique lui-même à Maurer qu'il faut qu'il parte, qu'on peut pas assurer sa sécurité. Parce que ce que disent les Allemands, c'est « Monsieur Maurer, vous écrivez des choses ignobles et injustes sur nous. Donc, vous ne pouvez plus vous promener dans les rues en toute sécurité. Si vous faites lyncher dans la rue, on n'y pourra rien. » Et on met des SA à sa porte, soi-disant pour assurer sa protection. Enfin, on lui fait une vie impossible. Et lui, il veut rester. Il veut rester jusqu'au congrès nazi de septembre à Nuremberg. Et puis, à un moment, l'ambassadeur américain, qui n'est pas un grand courageux, qui s'est trouvé là un peu par hasard, cède et lui dit c'est fini. Donc toute la presse, tous ces copains de la presse occidentale l'accompagnent sur le quai de la gare quand il s'en va. Il y a aussi quelques officiels nazis qui sont là et qui lui demandent: Monsieur Maurer, est-ce que vous reviendrez un jour? Et il a cette réponse, il dit: oui, je reviendrai à la tête de 2 millions de mes compatriotes.
On va recommencer justement par le cas des Américains. Vous avez remonté, Daniel Schneiderman, les archives du New York Times qui sont numérisées depuis 1856, dans lesquelles vous allez trouver une information factuelle et aucune trace d'émotion. Le ton avec lequel on a couvert ces années 30. C'est la clé de votre travail, de votre enquête. On va écouter Arthur Hayes Sulzberger. Il parle après la guerre. Il est le patron du New York Times. Il faut préciser que Sulzberger est juif lui-même.
Nous nous sommes toujours efforcés de présenter les nouvelles d'une manière objective, sans parti pris. La Constitution des États-Unis garantit la liberté de la presse. Il est néanmoins du devoir de tout journal sérieux de veiller à ce que les responsabilités dominent la liberté. Ce n'est que lorsque la presse est à la fois libre et responsable qu'elle devient une force bienfaisante et qu'elle peut maintenir les éléments que nous considérons essentiel à notre mode de vie, parmi lesquels figurent en premier lieu la liberté et la paix.
Vous avez relu le New York Times, les papiers des envoyés spéciaux et correspondants à New York dans les années 30, Daniel Schneiderman, et vous n'en revenez pas.
Et pas seulement.
Pas seulement le New York Times.
Et pas seulement à Berlin. En fait, c'est ma porte d'entrée. C'est ce qui m'a décidé à faire l'enquête. Ce qui m'a décidé à faire l'enquête, c'est bon, juste après Trump, après l'élection de Trump, quand toutes les questions d'immigration sont vraiment arrivées d'une façon très forte à la une. Il y a des journaux qui ont rappelé l'affaire du Saint-Louis. Le Saint-Louis, je vais la faire courte, c'est ce paquebot avec à son bord 1000 migrants juifs allemands. Allemands et autrichiens qui veulent demander l'asile aux États-Unis et qui sont refoulés par les autorités américaines, et pendant 15 jours, on est en 39, donc on est 6 ans après l'arrivée de Hitler au pouvoir, et pendant 15 jours, ce bateau va rester au large des côtes américaines, faire des ronds dans l'eau. On lui donne pas l'autorisation d'entrer, et finalement, il va retourner en Europe où une partie de ses passagers finira dans les camps de la mort.
C'est la froideur, la distanciation, voilà. Le côté factuel, aucune émotion que vous avez retrouvé dans ces papiers. Les papiers sont là.
Je me suis précipité sur le New York Times. Je me suis dit comment ils ont couvert ces 15 jours. Je me suis dit dans les 15 jours, je vais avoir des reportages bouleversants. Des reporters qui vont raconter qu'ils ont essayé de monter à bord, d'interviewer des passagers, des familles des passagers. Et à ma grande stupéfaction, rien. C'est-à-dire des brèves factuelles, froides, vous l'avez dit, en page intérieure. Ça fait la une fois, si vous voulez. Il faut dire qu'au même moment, il y a la visite du couple royal britannique à New York. Donc ça fait des colonnes et des colonnes à la une. Et je me suis dit, mais comment en 39, on en arrive à cette indifférence et à cette froideur dans
Alors,
un journal
vous,
comme vous le
tirez,
New York Times.
Vous tirez plusieurs fils, Daniel Schneiderman. Le premier, c'est qu'on peut être un patron de presse juif et pourtant, on peut cautionner cette couverture journalistique-là. Et même plus l'encourager, parce que vous dites, il faut être un bon juif. Il faut être un juif laïque. La religion, c'est à la maison, pas dans le travail, pas le citoyen. Il faut être le citoyen américain exemplaire.
En tout cas, c'est le cas de Sulzberger, dont on vient d'entendre la voix. Là, lui, son obsession, c'est de ne pas paraître, en tant que patron de presse juif, soutenir une éventuelle guerre des juifs contre Hitler. Voilà. De la même manière, d'ailleurs, que c'est l'obsession de Roosevelt au même moment. Parce qu'il faut savoir que s'il y a quand même beaucoup de juifs aux États-Unis, il y a des voix juives, il y a aussi un très fort antisémitisme. Et un antisémitisme public qui s'exprime avec des chroniqueurs extrêmement écoutés. Donc, ils sont tétanisés, si vous voulez, et notamment le New York Times. C'est pas le cas de tous les journaux américains, mais le cas du New York Times est intéressant. Ils sont tétanisés par la hantise de pas avoir l'air de faire la guerre juive.
Voilà, c'est extrêmement intéressant. On a retrouvé aussi, parce qu'il n'y a pas que les Américains qui sont en poste en Allemagne, il y a des Français également. On a retrouvé la voix des frères Tarot qui travaillent pour Paris Soir. C'est une voix difficile à retrouver. Là, les frères Tarot sont interviewés en 1938. Ils ne parlent pas de l'Allemagne, ils parlent de l'Espagne.
Vous savez que nous essayons toujours, mon frère et moi, d'apporter le plus d'objectivité et de sérénité possible. Dans tout ce que nous écrivons, nous n'y avons pas manqué. L'an dernier, quand nous avons fait paraître notre volume Cruelle Espagne, très favorable à Franco, qui apparaissait alors à peu près certain du succès.
Les frères Tarot, il y a quelque chose qui revient sans cesse au fur et à mesure de votre livre, Daniel Schneiderman, c'est le déni collectif de ces journalistes, de la persécution des Juifs, puis de leur extermination. L'incapacité de ces journalistes à donner un visage à ces victimes persécutées et ensuite exterminées. Vous dites après tout, les frères Tarot, dans leur antisémitisme, sont les seuls à avoir incarné les Juifs à force de caricatures, de nez crochus et de caftans. Mais au moins, ils leur ont donné un visage.
Alors, attention, moi, je ne me suis pas intéressé à la presse antisémite. Hein. J'ai pas regardé l'Action française, j'ai pas regardé Je suis
c'était
partout.
C'était Paris Soir, c'était l'ancêtre de France Soir.
Celle-là, elle ne m'intéresse pas. Celle qui m'intéresse, c'est la presse qui est en apparence apolitique, populaire, etc. Donc, Paris Soir. Alors, Paris Soir, qui est dirigé par un journaliste qui aura un grand avenir, s'appelle Pierre Lazareff, qui va mener la carrière qu'on sait ensuite, qui est juif lui-même, et qui emploie les frères Tarot. C'est-à-dire qui fait écrire les frères Tarot, qui envoie les frères Tarot alors avant la guerre, dans les ghettos juifs, par exemple, en Pologne, d'où ils reviennent avec des reportages incroyables de la tonalité que vous avez décrite, où ils décrivent, en effet, ces parias en caftan crasseux, qui puent, qui exigent des choses dans les facultés, etc. Voilà. Et on a... Alors, c'est pas un antisémitisme évident et virulent, celui des frères Tarot. Ils n'appellent pas à tuer les Juifs du tout. C'est une espèce d'antisémitisme ethnologique. Ils disent, voilà, on est allé là, on s'est bouché le nez, et on va vous raconter très froidement et très objectivement, il vient de parler d'objectivité, là, on va vous raconter très objectivement ce qu'on a vu. Et de penser que ces papiers puissent avoir paru dans la presse grand public dans les années 30 donne une idée du climat de l'époque. Et c'est aussi ce climat de l'époque qui explique une espèce d'indifférence générale devant les premières persécutions juives qui se développent dès 33.
Alors, je voudrais que vous disiez un dernier mot sur la presse communiste. Parce que il y a un point commun entre une presse britannique, une presse américaine et une certaine presse française. C'est un anti-communisme, une peur du bolchevisme telle qu'on préfère se ranger, plus ou moins, mais quand même, derrière l'Allemagne, la future Allemagne nazie. Et vous, Daniel Schneiderman, qui n'avez cessé de combattre et de critiquer une presse militante qui range derrière les faits, derrière la cause militante, vous découvrez que la presse communiste, celle-là, oui, elle est finalement le salut du journalisme de cette époque-là.
Non, faut pas exagérer non plus. je découvre que leur langage, quand on le lit aujourd'hui, est le seul langage qui tient. C'est-à-dire que dès 33, alors que toute la presse parle avec des circonvolutions du chancelier Hitler, l'humanité parle de la barbarie hitlérienne.
De la barbarie, des mots qu'on ne retrouve pas. Nulle part
voilà,
ailleurs.
Des mots qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Donc il y a un ton qui, lu aujourd'hui en 2018, est le seul ton qui tienne, si vous voulez. Bon, alors après, on sait pourquoi la presse communiste fait ça. Elle fait ça parce qu'effectivement, elle est dans la tonalité qui lui est dictée par Moscou, comme toutes les initiatives politiques du Parti communiste. Et d'ailleurs, c'est pas univoque. Le tout premier reportage de l'UMA dans l'Allemagne nazie en 33 met en scène un juif dans un train qui a rencontré l'envoyé spécial, et ce juif n'est pas extrêmement sympathique. Ce voyageur juif dit à l'envoyé spécial de l'UMA, non mais les nazis, on va bien finir par s'accommoder d'eux, de toute façon moi je veux pas quitter pour rien au monde, j'irai à... voilà. Donc on voit que c'est ambigu, mais il est très troublant. Bon, et puis alors après, bien plus tard, au moment du pacte germano-soviétique, alors là, virage total, et l'UMA épousera la ligne de Moscou. Mais c'est très troublant, de voir que relu aujourd'hui, le ton de l'UMA est celui qui sonne le plus juste.
Merci beaucoup, Daniel Schneiderman, c'est un très gros livre. Allez-y, plongez-vous, parce qu'il y a énormément d'articles, et même certains reproduits dans leur intégralité. Et il est paru chez Seuil, c'est la fin de l'émission. Bonjour, Ali Rebéi.
Bonjour, Sonia De Villers, et ce matin, je vous propose de dialoguer avec Stanislas Dehaene, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale au Collège de France, avec une question: comment développer le goût d'apprendre? Et c'est une question que l'on pose, et ça s'adresse aux grands et aux petits, 01 45 24 7000.